Éric Ménassy, pour cette deuxième partie de ce 34e Radio Barque, nous allons alors aborder plusieurs de vos responsabilités. On va commencer, si vous le voulez bien, par celle du président de l'Association des maires de l'Aude. Combien de communes déjà? 436
433.
Trois, j'en mettais trois de trop. Mais il est vrai qu'il y a eu quelques petites fusions, mais pas beaucoup récemment.
À la marge, il y a quelques années, mais le chiffre de 433 est le bon.
Et le bon. Et justement, à propos de ces fusions, ça n'a pas l'air de très fonctionner, ce souhait de l'État.
Non, je pense que cette volonté de l'État de vouloir fusionner ne fonctionne pas pour une raison essentielle. Je crois que là, une des caractéristiques de notre pays est cette forte identité locale. Et nos villes et nos villages veulent cultiver, j'ai le sentiment, cette identité. On parle souvent de clocher et de mairie.
L'esprit de clocher.
Et voilà, et cette particularité très française nous colle à la peau.
Oui, et pourtant, il y a les agglomérations maintenant, les communautés de communes, les communautés d'agglomération. Il y en a bien entendu chez vous, vous faites partie à Trèbes de Carcassonne Agglo. Comment ressentez-vous justement cette dichotomie entre cet attachement à la commune et puis la nécessité d'intégrer quand même une structure plus grande, ne serait-ce que pour certains projets?
Je crois aujourd'hui que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère et que si cet esprit de clocher perdure, il y a aussi un esprit beaucoup plus pragmatique qui nous amène à penser que la mutualisation est une forme de survie économique pour nos communes. Il est impensable aujourd'hui de penser qu'un tout petit village peut se suffire à lui-même. Il est important de penser mutualisation, il est important de penser beaucoup plus groupé pour être beaucoup plus efficient dans l'action publique. Ceci étant, je constate, et je vous dis ça sans forcément avoir un jugement de valeur, que la particularité locale reste très très forte et que l'esprit de clocher aussi.
Oui, donc il y a un antagonisme continuel entre cet attachement et la nécessité quasiment économique et de survie, pour reprendre votre expression, de faire partie d'une agglomération.
J'ai pas le sentiment que ce soit forcément un antagonisme. Je pense que c'est une adaptation à la réalité économique que nous vivons. Vous savez, les collectivités sont aujourd'hui en première ligne pour répondre aux demandes de nos concitoyens, et Dieu sait qu'elles sont importantes, ces demandes. Donc il est important à la fois de pouvoir vivre dans un cadre apaisé, respectueux. Les petits villages ont toute leur place dans le paysage de notre pays, et les agglomérations aussi sont, me semble-t-il, l'échelon pertinent pour permettre aux uns et aux autres de trouver un équilibre juste dans un paysage républicain que nous apprécions tant.
Oui, mais la notion du maire, de monsieur le maire ou madame le maire, reste quasiment mythique, je crois, dans la tradition républicaine française.
Écoutez, suivant l'expression sportive bien connue, il n'y a pas photo. Le maire reste, me semble-t-il, restera.
Malgré tout, on va y revenir.
Malgré tout, le symbole même de l'engagement d'un élu, je trouve que c'est une excellente chose. Je trouve aussi que les maux de notre société aujourd'hui rendent cette tâche de plus en plus difficile, parce que le maire et la mairie, avec les équipes municipales, deviennent le premier réceptacle de toute cette souffrance au niveau de notre société. Je le regrette parfois, parce que, nous allons l'évoquer rapidement, il y a de plus en plus de dérives, la violence est partout aujourd'hui, et l'engagement des maires n'échappe pas à cette dérive de la société. C'est regrettable, hein, il y a un peu plus d'un millier de démissions depuis le début du mandat en 2020. Le président de l'Association des maires de France le déplore quotidiennement. C'est une vraie question.
Oui, on reviendra un petit peu plus en détail dans une troisième partie sur ce problème qui, semble-t-il, prend une importance particulière. Mais en tant que, alors, l'Association des maires de l'Aude, C'est une déclinaison départementale de l'Association des maires de France, on est bien d'accord là-dessus.
C'est bien ça.
Voilà. Mais alors, donc, sur sa structure départementale, qu'est-ce qu'elle fait, à quoi elle sert, justement, étant enracinée sur le terrain ?
En fait, mon prédécesseur, Patrick Mogard, le maire de Castelnaudary, avait une formule qui me plaît beaucoup et que j'essaie de reprendre souvent. Il disait l'association des maires n'a aucun pouvoir, mais elle a une réelle influence. Cette influence, c'est à la fois cette force symbolique, puisque les 433 communes du département adhèrent à l'association des maires de l'Aude. Ce qui signifie que lorsque l'association s'exprime, elle a cette capacité de s'exprimer pour l'ensemble des communes du département, que ce soit les villes les plus importantes en termes de population, comme Narbonne ou Carcassonne, ou des villes encore plus petites, ou des villages comme le Mas-des-Cours, par exemple, ou d'autres petits villages comme Ville-d'Hubert, ou encore Maisons. Donc cette capacité à pouvoir parler au nom de tous, c'est une force pour l'association. Ensuite, pour répondre à votre question, que faisons-nous ? Écoutez, notre activité, nos activités sont importantes, d'abord en termes de formation. Aujourd'hui, l'ADN de l'Association des maires, c'est de pouvoir dispenser de la formation pour les élus. Permettre aux élus de se mettre à niveau, de pouvoir mieux appréhender les problématiques d'une mairie, et vous le savez, elles sont importantes, que ce soit en termes d'état civil, de sécurité, d'urbanisme. Le maire, en fait, est un touche-à-tout. C'est un praticien de la République, pour reprendre les mots du président Lisnard. Ensuite, nous avons depuis un an organisé ce salon des maires, qui est un moment important, un moment important puisqu'il permet à l'ensemble de cette communauté républicaine de pouvoir se retrouver dans un endroit et pouvoir tisser du réseau, parce que c'est ça qui est important aussi. Pouvoir nous parler, nous rencontrer avec l'ensemble de nos partenaires. Je crois que pour le prochain salon, l'ensemble des stands que nous avions mis à la location sont déjà épuisés, ce qui prouve que nous avons à la fois eu un vrai soutien de nos partenaires, mais que ce salon suscite un vrai engouement. Et pour terminer, j'ai envie de vous dire que nous essayons d'être au plus près de nos collègues maires lorsqu'ils sont victimes d'agressions. Et pour ce faire, j'ai demandé à un des vice-présidents de l'association, le maire de Trosses-Minervois, Jean-François Saïssette, de se saisir de cette problématique.
Oui, parce que lui, il a subi ce genre de mésaventure.
Et d'être au plus près de nos collègues. Vous voyez, l'association est extrêmement active parce que l'actualité nous rend actifs quasiment quotidiennement.
Oui, oui, voilà. Donc, on peut dire d'une certaine façon que ce salon, vous l'avez remarqué, Éric Ménassy, correspondait à un besoin qui a été comblé, en quelque sorte. Parce que le besoin, il devait exister déjà.
Il existait, ce besoin. Nous n'en avions pas la certitude, puisque c'était la première fois. L'idée germait depuis un petit moment dans la tête de nos prédécesseurs au bureau, et surtout dans la tête de Patrick Mogard, qui voulait depuis un petit moment organiser ce salon. Ensuite, il y a eu la Covid,
oui, alors,
ça a été assez compliqué.
Mais certains départements le pratiquaient déjà.
Beaucoup de départements le pratiquent. Vous savez, culturellement et institutionnellement, le Salon des maires de France permet à tous les maires de France de se retrouver. Mais on sait très bien que la proportion des maires audois qui se déplacent à Paris est assez faible. Et l'organisation de ce salon départemental, c'est aussi l'opportunité pour l'ensemble des maires audois de se retrouver en un lieu et d'essayer d'échanger avec leurs confrères.
Oui, oui, là, il y a la proximité et l'accessibilité, peut-être, qui manque au niveau national.
La première édition avait été un vrai succès à Narbonne, grâce au concours important de la municipalité narbonnaise et à son maire Didier Mouly, que je salue affectueusement. La deuxième édition aura lieu à Carcassonne, avec une implication aussi forte de la part de la mairie de Carcassonne et de son maire Gérard Lara. Nous nous retrouvons, nous nous sommes retrouvés vendredi pour un point de presse, en essayant de mobiliser le plus possible, mais encore une fois, je ne suis pas inquiet tant la première édition nous a montré qu'il y avait un besoin et une attente forte de la part de nos collègues maires.
Voilà, donc ce salon, c'est quel est son intitulé exact ?
Alors c'est le Salon des communes et des territoires.
Un salon des communes et des territoires, voilà.
C'est bien ça, et qu'il regroupe l'ensemble de la communauté au niveau du département. Nous avons essayé d'élargir au maximum en permettant aux maires, aux adjoints, aux conseillers municipaux, mais nous l'étendons aussi aux cadres territoriaux de façon à ce que ce salon puisse tout au long de la journée avoir un rythme suffisamment soutenu pour qu'il ne soit pas un lieu assez lent, et nous aurons, je l'espère, cette année la visite de personnalités qui nous permettra, comme l'année dernière, d'avoir des moments assez forts.
Ah, voilà, mais là pour le moment chute, enfin secret, ou ça va dépendre de l'actualité.
Non, ça dépendra de l'actualité. Nous avons, comme l'année dernière, invité le président national, David Lisnard, à être des nôtres. Le président est, vous vous en doutez, extrêmement sollicité parce que les salons se multiplient dans toute la France. Et je sais que s'il le peut, il nous rendra visite. Mais nous sommes en concurrence avec d'autres salons.
Avec d'autres. Alors, maintenant, passons au SMAR, donc, que vous présidez également, Monsieur Menassi. Et alors, justement, le SMAR, c'est la gestion des eaux. Bon, on sait que ce département-ci et une grande partie du pays est en pleine sécheresse. Le SMAR démontre d'une certaine façon plus que jamais qu'il est nécessaire, qu'il est utile, mais il se trouve dans une situation qui est quand même inhabituelle.
Vous avez raison, la situation que nous vivons depuis plusieurs années aujourd'hui, en fait, n'est que la conséquence que ce que les scientifiques prévoyaient. Le dérèglement climatique apporte des périodes de sécheresse de plus en plus fortes et un manque d'eau qui est de plus en plus fort. Ce que nous savons aujourd'hui avec une quasi-certitude, c'est que les épisodes de fortes précipitations arriveront et que le travail du SMAR et de l'organisation qu'il représente avec ses syndicats de rivières est un travail important. Nous avons réussi à boucler un programme important de plus de 70 millions d'euros, le PAPI 3, que nous signerons le 29 juin prochain, en compagnie de Monsieur le Préfet de l'Aude, de Madame la Présidente du Conseil départemental et de la région Occitanie. Vous savez, 70 millions d'euros, c'est des investissements assez importants pour le département de l'Aude.
Qui engage sur combien de temps ?
Qui nous engage à peu près sur 5-6 ans et qui vont permettre, pendant la durée de ce PAPI 3, de pouvoir réaliser des investissements structurants sur le département. La difficulté, vous l'avez dit, c'est qu'aujourd'hui, nous traitons deux problématiques. Le trop d'eau en essayant d'aménager le territoire et le pas assez d'eau, qui est une vraie problématique aujourd'hui.
Oui. Mais justement, cette notion, cet effet surprise en quelque sorte, amène peut-être à revoir un certain fonctionnement du SMAR ou certaines habitudes.
Non, le SMAR, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, est né au lendemain d'une catastrophe terrible pour notre département.
C'était
le trop d'eau en 1999 et la volonté du préfet de l'époque et du feu président Marcel Reynaud du Conseil Général. En 2002, le SMAR est né et avait depuis le début pour vocation une double ambition, à la fois gérer le trop d'eau, mais aussi gérer le pas assez d'eau. Aujourd'hui, cette problématique est prégnante pour nous et nous participons régulièrement au comité de gestion de l'eau organisé par la préfecture de l'Aude, et dans le cadre du PGRE, nous essayons d'apporter une vision la plus pertinente possible. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de ne pas opposer les utilisateurs de l'eau. Il n'y a pas des bons et des mauvais utilisateurs. Il y a à prendre en considération un état de fait. Notre climat change et la ressource sera moins importante dans les années qui viennent. comment, collectivement, nous devons nous adapter à cette réalité. C'est un enjeu majeur pour les années qui viennent. Je crois que le SMART devra prendre toute sa place dans un débat qui va concerner toutes les populations.
Alors, le SMART, donc, gère les rivières, donc ce qui existe. On parle de plus en plus de la nécessité également de retenir de l'eau lorsqu'elle tombe, même si elle tombe de manière parfois un petit peu difficile et rare. Mais de plus en plus, alors certains évoquent la nécessité de construire ce qu'ils appellent des retenues collinaires, c'est-à-dire prendre l'eau quand elle l'eau de pluie, la conserver le mieux possible pour la réutiliser. Est-il prévu également, ce qui a causé beaucoup de polémiques ailleurs, des bassines ou des méga-bassines dans l'Aude?
Vous savez, ce sont des sujets extrêmement clivants
qu'il faut
évoquer avec beaucoup de retenue et d'humilité. Moi, je vais vous donner l'avis très personnel du président du SMART. Je pense que les retenues collinaires sont, me semble-t-il, une des solutions qui devra être apportée dans les années qui viennent, mais c'est une partie de la solution. Imaginez que nous pourrons, au travers de bassines, comme vous l'expliquez, pouvoir capter de l'eau, c'est, me semble-t-il, une hérésie. Une hérésie lorsqu'on parle de bassine. Lorsqu'on parle de retenue collinaire, on parle de tout autre chose, et je pense qu'il y a, sur le département de l'Aude, déjà des projets qui sont avancés.
Oui, des endroits qui s'y prêtent.
Portés par la Chambre d'agriculture et portés aussi par la préfecture. Et il me semble que ce serait une erreur de pas accentuer ces projets-là, parce que c'est une réalité. Moi, ce que j'aimerais vous dire au travers de cette vraie problématique, c'est que avant d'aller vers des solutions, le plus important, c'est que nous partagions ensemble un constat. Ce constat, c'est que les périodes de forte chaleur et de manque de précipitations sont de plus en plus récurrentes. Et tout ça, je vous le dis pas au travers des deux dernières années. Tout ça, on le vit par rapport à des études sur 10-15 ans. Et nous nous rendons compte que depuis 10-15 ans, la réalité des études qui est faite, c'est qu'il y a moins de précipitations. Et lorsqu'il y a des précipitations, elles se font dans des proportions terrible, comme nous l'avons vécu en 2018. Et donc, il faut appréhender ces choses-là avec beaucoup de mesure, avec beaucoup d'humilité, et ne pas opposer les uns et les autres. Il n'y a pas le monde agricole contre le monde du loisir, il n'y a pas le monde du loisir contre les collectivités. Il faut partager la ressource, et dans les années qui viennent, elle sera de plus en plus rare.
Voilà, ce qui sera un sujet donc non seulement naturel, mais éminemment politique. On marque, Éric Ménassy, une seconde pause.